48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous pour ce Mag, pendant que Yael fait un peu du bruit avec son micro.
Bonjour.
Voilà, mais ça me permet de dire bonjour à Yael, donc, qui est modératrice aujourd'hui. Le 39e et dernier Mag pour cette année. Dès ce lundi, nous passons à la grille d'été. Donc vous aurez droit à une rediffusion des meilleurs moments du Mag de 48 FM tout l'été en attendant son retour, bien entendu, pour la première semaine de septembre. Alors pour ce dernier Mag de l'année, en tant qu'unique radio 100% mandoise, eh bien nous avons décidé d'un Mag spécial Ville de Mende avec toujours trois invités pour évoquer des sujets d'actualité. Alors Alain Bertrand, le sénateur maire de Mende qui a affaire, va nous rejoindre dans quelques instants. Nous nous intéresserons avec lui à la vie de Mende en évoquant entre autres son développement économique. Un volet social avec Françoise Amarger-Brajon, adjointe en charge de l'action sociale. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous, l'été approche, avec lui son lot de festivités, et pour en parler, la culture avec François Béringuel, adjoint en charge de la culture à la ville de Mende. Bonjour Jean-François.
Bonjour Ludovic.
Et voilà, et comme on a entendu, Yael qui est ici en tant que modératrice.
Bonjour tout le monde.
Alors Yael, un an de Mag déjà.
Déjà.
Mais oui,
déjà
un an de Mag, an. Depuis septembre.
Alors, joyeux anniversaire.
Et oui, tu me connais, je tiens les comptes. Et depuis septembre, il faut savoir que ce sont 137 personnes qui sont venues à votre place, Jean-François et Françoise, des Mendois, des Lozériens, pour parler de culture, d'éducation, de social, de sport, d'économie, de patrimoine, toujours des sujets d'actualité et toujours dans l'objectif de montrer qu'il se passe des choses sur Mende et en Lozère, malgré la morosité ambiante. Alors, on va commencer en parlant avec vous, Françoise, tandis que je vois le maire, sénateur maire de Mende qui arrive. On va juste glisser un mot, peut-être, sur l'action sociale proposée par la ville de Mende, et notamment vous, qui vous occupez de la Maison solidaire, c'est ça ?
Voilà, alors il y a la Maison solidaire, mais la Maison solidaire qui est gérée par le Centre intercommunal d'action sociale. Donc, le Centre intercommunal, c'est un établissement public, présidé par le président de la communauté des communes, c'est-à-dire monsieur le sénateur maire que nous accueillons maintenant, et par un conseil qui est composé de 8 conseillers communautaires et 8 représentants des personnes qualifiées du secteur social. En effet, le CIAS est chargé de la mise en œuvre de l'action sociale sur la ville et sur la communauté des communes, c'est-à-dire sur les 3 autres villages de cette communauté.
D'accord, merci Françoise. On va passer à monsieur le maire qui, je sais, a un emploi du temps assez serré, qui est pressé, comme chaque homme politique de ce département. Monsieur Alain Bertrand, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, comme j'expliquais, on est ici dans ce Mag pour parler un peu de ce qui se fait sur Mende, ce qui se fait également en Lozère, montrer que malgré la morosité ambiante, il se passe des choses dans notre département. Donc, on parle souvent d'actualité et également de festivités, ce qui tombe bien, vu que ce vendredi, il y a une fête dans un quartier qui vous est cher, celui de Fontanille. Peut-être expliquez-nous, les Mendois sont invités dès 18h30 pour commencer à fêter la fin des travaux réalisés dans le quartier.
Oui, et ça ne concerne pas d'ailleurs que les habitants de Fontanille, ça concerne plus largement les Mendois. Bon, il a échappé à personne que mon prédécesseur, le docteur Jean-Jacques Delmas, avait rénové tout le cœur de ville, toutes les installations sportives, créé de nouveaux quartiers. Il restait Fontanille à traiter, on a considéré que c'était une priorité. On a pu aider aussi les bailleurs sociaux par l'intermédiaire de l'État, de la région, notamment. Eux ont rénové les appartements, qu'il s'agisse de la SHLM ou de la SAIM. Nous, on a rénové les parties communes, on a créé un terrain multisport, aménagé les jardins familiaux, repris la totalité des espaces verts, des aménagements urbains, créé une nouvelle desserte, construit 140 places de parking supplémentaires, ce qui était une demande forte des résidents de Fontanille. On a repris tous les réseaux, y compris pour la qualité de l'eau. On a refait la place des commerces et on va poser bientôt, vendredi, donc la première pierre de la maison de quartier, François Mitterrand, verra exercer deux médecins sur le quartier de Fontanille, qui pourra recevoir aussi des permanences d'assistantes sociales, le passage de la police, le siège de l'association de quartier, qui sera un lieu de vie sociale précisément implantée au cœur de Fontanilles, sur les commerces. Donc, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement pour la commune, c'est 13 millions d'euros d'investissement pour les bailleurs sociaux, et là aussi, Mende voit l'avenir, se développe et poursuit son développement.
Oui, elle.
Oui, pardon. Sur Fontanilles aussi, on n'en a pas parlé, la création d'une zone à 30.
Oui, une zone à 30 pour essayer de rétablir de la convivialité, de la proximité, et puis d'essayer de décrisper, de détendre l'utilisation des véhicules, le stationnement, la vitesse. Ce n'est pas un quartier où on doit aller vite, puisqu'il y a beaucoup d'enfants. On n'a pas parlé aussi de la dénomination de l'école maternelle qui s'appellera Gérard Pons, qui sera baptisée aussi vendredi, du nom d'un enseignant, d'un grand humaniste, d'un élu de la ville de Mende. Et donc tout ça, c'est un ensemble de très 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 bonnes nouvelles pour ce quartier d'avenir, avec une association sportive qui fonctionne bien, avec un médiateur de quartier, avec l'association de Fontanilles et avec d'autres perspectives de travaux, notamment un terrain de sport qui permettent à la pratique du football, certainement avec une pelouse synthétique. Ça, ce sera au programme de mon prochain mandat.
Oui, toutes ces réflexions qui étaient déjà au programme de votre campagne précédente.
Mais c'est-à-dire que quand on fait un programme, on n'a jamais tous les éléments, et donc il y a des choses que nous avons faites, comme la rénovation de Fontanilles qui n'était pas au programme, parce que le déclencheur, ça a été les bailleurs sociaux. Des choses qui n'étaient pas prévues, comme par exemple la réfection complète de l'avenue du 8 mai pour pratiquement 3 millions d'euros. Et des choses qui n'étaient pas prévues aussi, comme la réfection de la cité administrative, les occupants menaçant de la quitter puisqu'elle était plus aux normes, pour 7 millions d'euros. Et en contrepartie, donc, l'abandon d'un seul dossier, ou plutôt de deux, par rapport au programme. C'est tout. Et c'est vraiment tout, c'est-à-dire le grand gymnase pour Fontanilles, qui aurait pu contenir le jeu de longue plus un équipement spécial pour le basket, parce que c'était trop cher, plus de 7 millions d'euros. Le deuxième abandon a concerné le street hockey. J'avais à cœur de parvenir. On a évalué, approché 10 ou 15 sites différents, et ça n'allait jamais bien. Donc tout ça, ce sera à l'ordre du jour du prochain mandat. Et donc, voilà, oui. Tout va bien.
Il y a des travaux qui n'étaient pas prévus également, donc vous en parliez. Des travaux de voirie aussi qui sont tombés dessus pendant ce mandat.
Bien, il y a eu le gros sujet pendant ce mandat, et ça a été de finir la négociation de délégation des services publics du réseau de chaleur. Ça a été d'achever par le délégataire les 12 millions d'euros de travaux du réseau de chaleur. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais il y a d'autres sujets aussi qui ne sont pas visibles, comme la création du plan communal de sauvegarde. Ces 2 ans de travail, personne n'en sait rien. Et ça nous garantit, en cas d'explosion chimique, en cas de chute d'aéronef, en cas d'effondrement des falaises, en cas d'intempéries ou de crues, il y a le PLU. Le PLU qui a nécessité 2 ans de travail. Pour le plan communal de sauvegarde, c'est Elisabeth Minet-Trenel qui s'y est collée. Pour le PLU, c'est Dominique Delmas. Le PLU qui aboutit à un résultat important. 100 hectares, en gros, de terrain à bâtir supplémentaire. Oui, un nouvel avenir donné. Vous en voyez le résultat, d'ailleurs, aujourd'hui. Depuis Mende, vous levez la tête et vous apercevrez de nombreux travaux, de nombreuses grues et la construction actuellement en cours de 150 maisons, ou petits collectifs, dont une très large partie en accession à la propriété. Accession à la propriété pour laquelle un bailleur social chargé du quartier que j'évoque, c'est-à-dire la Bergerie 2, me disait on a plus de 100 demandes en portefeuille. Donc il y a ceux qui disent ça va mal, il faut baisser les bras, puis il y a ceux comme l'équipe Irrésistible Mende qui travaillent, qui font des choses, et on s'aperçoit que 150 unités d'habitation mises en vente à la Bergerie 2, les 150 trouvent preneur immédiatement. C'est pour ça qu'on attaque la Bergerie 3 et qu'on va attaquer une fin de lotissement à Valcroze avec là aussi 15 ou 20 lots à mettre à la vente et qu'on va passer immédiatement à la partie constructible que nous avons libérée entre Chabanne et Chabry, ce qui va faire encore plusieurs centaines de terrain à bâtir pour les jeunes mandois, pour les jeunes couples, pour nos forces vives. Et donc, c'est une ville en plein mouvement, quoi, qui est extrêmement passionnante.
Oui, vous parlez de la bergerie. Il faut développer les infrastructures, le développement économique, c'est important. Mais il faut également favoriser l'accueil de nouvelles populations pour donner un certain poids à nos villes rurales, en fin de compte. Combien d'habitations supplémentaires là ont été créées entre tous les lots de la bergerie à peu près, hein, sans avoir le chiffre exact?
Tous les lots de la bergerie actuelle, la bergerie 2, celle sur laquelle vous voyez les grues, c'est 150 unités d'habitation. C'est un investissement de 13 millions d'euros par la SA Polygone et de 3 millions d'euros par la commune. La bergerie 3, dont les travaux commencent au mois de décembre, c'est 70 habitations supplémentaires et un investissement par la commune de 2 millions d'euros environ. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup de chantiers. Si on ajoute les deux tranches de 5 millions d'euros qui viennent se réaliser sur les lycées et les deux autres qui vont suivre de 5 millions d'euros aussi à Pétamin, 5 millions d'euros à Chaptal. Si on joint ces 20 millions d'euros aux 17 de Fontanille, là maintenant aux 17 de la bergerie 2 et de la bergerie 3, et si on ajoute la rocade ouest que j'ai obtenue de Haute-Lutte, alors que certains peut-être auraient voulu la construire à la Tiole, et je remercie d'ailleurs M. Cuvillier, le ministre des Infrastructures et des Routes, je remercie Jean-Claude Guessot qui m'a appuyé, je remercie Christian Bourquin, je remercie Jean-Paul Pouquet. Si on rajoute les 27 millions d'euros de la construction de la rocade ouest, c'est au total une ville qui a du souffle, qui se développe, avec des entreprises qui souffrent beaucoup moins qu'ailleurs, et avec surtout des salariés qui ont du travail. Voilà, c'est ça, dans une période de crise, on est obligé de s'adapter. On ne pense pas aux fioritures, ou à ce qui est accessoire, ou à ce qui est secondaire, ou à ce qui est juste du domaine ludique. On pense au cœur de métier de maire, soutenir l'emploi, créer de l'emploi, développer l'emploi.
Voilà, l'argent que vous mettez est réinjecté dans l'économie locale. Ce sont des entreprises lausériennes qui travaillent sur les différents chantiers actuellement sur Mende.
Vous savez qu'il y a une législation extrêmement rigoureuse en matière d'appel d'offres, en matière de dévolution des appels d'offres publics. Je m'y plie, je la respecte à 100%. Et comme nos entreprises sont performantes, il se trouve que les marchés donnés par la ville de Mende, quand la compétence existe en Lozère, c'est 100% de marchés donnés aux Lozériens. Et sur ces 100%, c'est une très très large partie donnée aux entreprises mandoises. Voilà.
Alors, beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent. Dans ces travaux, vous bénéficiez d'aide de l'État, de la région, du département. Il y a également une part communale, on le sait, qui provient entre autres des impôts locaux. Alors, j'aimerais savoir, on sait que c'est une attaque récurrente de l'opposition, savoir où est la limite entre l'augmentation des impôts locaux et le développement économique d'une ville, en l'occurrence celle de Mende.
Bien, je dirais, moi je suis fréchiste, les impôts, il faut les augmenter, mais il faut les augmenter de manière très mesurée, c'est ce que j'ai fait sur la durée de ce mandat. Les impôts augmentent moins que l'inflation, que le coût de la vie. Ce sera de l'ordre de 1,4% par an, ce qui est complètement raisonnable. Ensuite, ce qui a augmenté par contre depuis 2008, le début de mon mandat, c'est la richesse de la ville, avec la création, donc, par exemple, de nombreuses moyennes surfaces à Ramille, avec la création de bioénergie, avec le développement d'Environnement 48, avec la construction d'en gros 500 maisons supplémentaires. Et donc c'est ça qui fait l'accroissement de la richesse de la ville. Et c'est indispensable pour l'avenir. Vous savez, il y a deux sortes d'élus. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font des incantations, puis il y a ceux qui font des choses. Moi, je crois que l'impôt, c'est quelque chose de juste. Quand il est raisonnable, c'est aussi quelque chose de juste. Nous avons une taxe d'habitation qui est très inférieure à la moyenne des villes de même taille de la région. Un foncier bâti qui est conforme aux villes de même taille de la région et du secteur, si on rajoute Le Puy, Saint-Four, Rodez, Millau. Donc, j'utilise les marges de manœuvre qu'il y a. Par ailleurs, par exemple, cette année, la taxe d'habitation va baisser à Mende pour les familles aux revenus les plus faibles, et les familles qui ont... Elle baissera d'autant plus que ces familles auront 3 enfants, ou 4 enfants, ou 2 enfants. Par ailleurs, la taxe d'habitation, donc pour les économiquement faibles, va baisser, pour les familles nombreuses aussi, et elle va baisser également pour les handicapés, c'est une nouveauté. Donc oui, les impôts montent pour certains, ceux qui ont le plus de revenus, et baissent pour d'autres, c'est la politique que je défends et que je crois la bonne pour la ville. L'augmentation mesurée d'impôts et des capacités à faire beaucoup de choses par accroissement de la richesse de la ville.
Pour la taxe d'habitation, on a une comparaison avec des villes de même ampleur que celle de Mende, ou des villes lausériennes du moins ?
La comparaison, en gros, nous, la taxe d'habitation à Mende, c'est 13,62% en 2013, c'est-à-dire presque 14%. Privas dans l'Ardèche est à 24, Millau à côté est à 20, Rodez est à 18, Saint-Flour est à 19, Aurillac est à 21, Alès est à 21 et le Puy-en-Velay est à 20. Tout cela, ce sont les villes qui nous entourent et qui sont des villes comparables à la nôtre. Donc ça, ce sont les chiffres. Après, mon opposition transporte des chiffres manifestement faux, elle croit faire un argumentaire politique, elle se trompe. Madame Brunel me répète en leitmotiv qu'elle représente 49% de la population. Non, celui qui représentait 49% de la population, c'est Francis Lévier, la liste qu'il avait constituée.
Le développement économique dont on en a parlé, c'est les impôts locaux, c'est également les entreprises. Où en est le parc d'activité Antoine Chaptal qui doit se créer prochainement ? Vous étiez en pourparlers avec certaines grosses entreprises pour venir s'y implanter. On en est où actuellement ?
Donc actuellement, on en est à l'attribution de la concession, ce qui vient d'être fait ce matin à l'occasion de la réunion du syndicat mixte. La concession est attribuée à Languedoc-Roussillon Aménagement. La maîtrise d'œuvre a été décidée ce matin aussi. Elle associe deux Lozériens, Bonnet-Tessier et Dombre Biliki, et puis une société de l'extérieur qui fait un ensemble de maîtrise d'œuvre pour Languedoc-Roussillon, Aménagement et la région. Et donc je pense que ça va se passer au mieux. Notre objectif, c'est de démarrer les travaux au premier semestre 2014. Il faut savoir que sur un parc régional d'activité donc, qui va engager 23 millions d'euros de travaux, je remercie le président Bourquin de nous faire confiance, et bien, il y a tout un tas d'écueils administratifs à passer, notamment tout ce qui est faune, flore, eau, aménagement, traitement de l'eau, enquêtes diverses et variées, traitement de la forêt, compensation. Il y a tous les aspects techniques. On a attaqué ce parc en 2008, on est en 2013. 5 ans après, les travaux vont commencer. Certains trouvent que cela n'a pas été vite. Je dirais que ça a été très, 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 très vite et au mieux. Et je remercie vraiment le président Bourquin de sa confiance et du poids qu'il a mis pour accélérer les travaux de ce PRAE qui se situe sur la commune de Badarou, qui sera piloté par le président Christian Bourquin lui-même, mais qui m'en a confié la vice-présidence, puisqu'il ne pourrait pas être souvent là. Le bureau étant constitué donc, de Christian Bourquin, Alain Bertrand et Régis Turc, ce qui est bien légitime, puisque le parc se trouve sur la commune de Badarou. Régis Turc étant le maire de Badarou.
On peut espérer la création de combien d'emplois ? C'est toujours difficile à dire en amont, mais...
On a déjà une douzaine au moins d'entreprises en portefeuille, sachant qu'un parc commence à vivre réellement qu'au moment où il y a la voirie de fête et des premiers coups de pelle mécanique, ce qui veut dire que ça va être une longue histoire et sur une quinzaine d'années, on pourra avoir 30, 40, 50, 60 entreprises et entre 500 et 1500 emplois, quoi, sans être optimiste. Voilà.
Par contre, tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, on parlait des travaux, il y a l'espace événement dont les travaux viennent de débuter aussi.
Oui, mais ça fait partie des grands classiques, donc je ne l'ai pas rappelé. On était parti sur le quartier de Fontanille, dans les projets destinés à revitaliser le cœur de ville, et qui sont des projets structurants pour l'avenir. Parce que ce qui compte aussi, quand on augmente un peu les impôts, c'est de travailler pour l'avenir. C'est vrai qu'il y a l'espace événement. Saint-Élipide était plus adapté, il est en cœur de ville. il doit créer des flux nouveaux, et il y a le musée. Donc ces deux projets qui sont en gros de même taille, l'espace événement tout de suite, hein, les travaux sont de démolition de Saint-Elpide sont en cours, 7 millions d'euros, et après on aura le musée ultérieurement, quand le projet scientifique et culturel sera bouclé, pour aussi 7 millions d'euros, mais ça c'est dans 2 ans, 3 ans. Le transfert des collections va avoir lieu, on a passé une convention avec le président Pourquier, on est en train de la passer, je l'en remercie d'ailleurs au président Pourquier. On va créer les réserves du musée, qui sont des réserves neuves, pour lesquelles on a eu le financement de l'État, de la région. La ville demande, bien sûr, venant en complément. Ce chantier va démarrer en fin d'année. Je crois que c'est les 75 000 habitants de la Lozère qui l'attendaient. C'est aussi le groupe Irrésistible Mende qui l'a mise en œuvre. C'est cher au cœur de Jean-François Berenguel, de Marie Paoli, du président Chevalier, de la Société des Lettres, des amis du musée Ignon Fabre, de M. Lannes. Je crois que ça va créer une énergie nouvelle pour notre centre-ville qui souffre du fait des moyens de consommation modernes, comme tous les centres-villes de villes de moins de 100 000 habitants, disons. Et c'est un outil pour l'avenir, comme l'espace événement. L'espace événement devant drainer des flux en centre-ville, des congrès, des assemblées générales, un lieu pour les mariages aussi, du travail pour nos restaurateurs, et des flux en centre-ville pour acheter une robe, un panier lozérien, et tout un tas de produits de notre artisanat, sans oublier nos biscuits, la charcuterie, les fricandos, la saucisse de Mende et tout ce qui va bien avec.
Ça fait beaucoup de travaux pour une année d'élection. Stratégiquement, ce n'est pas toujours conseillé sur une année électorale de multiplier comme ça les travaux.
C'est même déconseillé. Mais comme je vous l'ai dit, je vous le redis, je suis fréchiste. Et je suis socialiste. Bon, mais ma tendance, c'est la tendance Georges Frêche. Donc je suis... D'ailleurs, je m'aperçois que quand je me promène dans la France entière ou quand je discute à Paris avec des gens de tous les départements, c'est là, la côte de Frêche monte sans cesse. Tout le monde dit que c'était un grand homme, je crois que... Et Frêche a toujours privilégié les travaux, je privilégierai toujours les travaux. S'il y a quelques grincheux, quelques passéistes, quelques malembouchés, quelques personnes qui n'a pas... La clairvoyance de voir que les travaux, c'est indispensable à la vie de nos entreprises, donc à l'emploi, donc aux salariés, donc à la richesse de la ville, donc au commerce, eh bien, tant pis pour eux. Je ne peux pas obliger un âne à boire s'il n'a pas soif. L'État a fait plus d'un million de travaux sur l'avenue Britex et du Père Coudrin. Je prends, le réseau de chaleur se poursuit, je prends, l'État va refaire l'avenue Fauche, je prends. J'ai obtenu 2 millions d'euros de travaux sur la cathédrale. Je prends l'espace événement perturbera la vie du centre-ville. Je le fais y compris pendant la période électorale parce que de toute façon, ce sera engagé et parce que de toute façon, ça fonde l'avenir de Mende. Mende est une ville de 14 000 habitants avec les doubles comptes, qui est une ville fragile, qui est sur l'arête. Elle peut basculer à la petite préfecture comme est privée. J'ai rien contre mes voisins ardéchois. Ah on y a pris le dessus. Moi, je ne le veux pas. Nous avons 14 000 habitants, mais je demande au Mende un effort parce que je garde l'ambition de notre ville et préfecture, l'ambition de Mende intacte. Il n'y aura pas de développement du département de la Lozère sans développement de Mende. Et donc, les travaux, c'est une chance. Je l'ai encore dit hier au président de la CCI. Je leur ai demandé, je lui ai dit, président, vous qui avez l'oreille de la population aussi, dites-leur, chaque fois qu'ils voient une grue, chaque fois qu'ils voient une rue avec un petit inconvénient de circulation barrée, ils devraient être contents. Les commerçants devraient applaudir à la masse d'investissement que nous faisons. Voilà. S'il y en a à qui ça ne convient pas, comme vous le savez, le jeu des élections, l'exercice de la démocratie, plus il y a de listes, mieux ça va. Chacun vote pour qui il veut. S'ils ont besoin d'Alain Bertrand comme outil et de son équipe pour les 6 prochaines années, ils votent pour moi, s'ils n'en ont pas besoin, ils ne votent pas pour moi, ils ne se fassent aucun souci, ils ne me feront pas de peine. Je les aime, je me contenterai des voix de ceux qui m'aiment.
D'accord, avant de clôturer cette émission, vous parliez de votre rôle de sénateur. Comment on arrive justement à combiner ce poste sénatorial avec celui d'être maire d'une ville, préfecture, d'un département ? Est-ce que c'est compliqué au final? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça permet de faire avancer les dossiers? Comment on arrive à juguler les deux?
Ben, c'est compliqué, on y arrive en travaillant beaucoup, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. On y arrive un peu au préjudice de sa vie familiale, et c'est vrai que de sa vie personnelle, bon, mais il faut être attentif à la place de sa famille, hein, de sa compagne ou de son épouse, ou à la place des enfants, à la place de ses amis. Mais on y arrive en travaillant beaucoup. Par ailleurs, c'est vrai qu'après la loi sur le cumul des mandats, on y arrivera plus facilement, mais on y arrivera en étant coupé des réalités locales. Donc on y arrivera plus facilement, mais on prendra certainement des décisions moins justes ou moins en relation avec le terrain. Et vous savez que comme Georges Frêche d'ailleurs, j'aime l'intelligence, j'aime la science, j'aime la culture, j'aime les arts, mais je fais davantage confiance au bon sens et au bon sens du terrain. Et en politique, je ne vois qu'un maître mot, c'est la proximité, c'est la connaissance des problèmes, de la souffrance des gens, notamment dans cette période. Et la seule réalité que je vois à ce mandat de sénateur, ou la seule efficacité, c'est de transporter à Paris ce que les gens sur le terrain sentent. Et plus tard, quand nous aurons la loi qui aura aboli le cumul des mandats, nous aurons des sénateurs et des députés dont j'observe que leur nombre est pléthorique. Moi, je l'ai déjà écrit sur le Midi Libre à Lozère Nouvelle. Il y a 10 ans que j'étais pour 100 sénateurs et 100 députés. Nous aurons des sénateurs et des députés, un peu comme aujourd'hui les députés européens, qui seront parmi les recalés du suffrage universel et désignés par les partis politiques qui seront des gens aux ordres, sans âme, qui iront lever le doigt à Paris. Les lois n'émaneront plus du terrain, elles émaneront du cénacle parisien et de l'énarchie, et ce sera au préjudice de notre bonne Lozère.
D'accord, beaucoup de travail pour finir cet été. Peut-être un peu de vacances. Vous avez prévu quoi comme programme? Un peu de pêche au bord du Lot?
Je vais aller traquer le goujon et le veron sauvage, tâcher de prélever dans des conditions légales quelques écrevisses à pattes blanches, Astacus, Palipes, boire quelques bons verres de vin rouge avec mes amis. Si je peux en plus capturer quelques cèpes sauvages aussi, ce sera une bonne chose. Je me limiterai à ça pour ce qui est de cet été.
Très bien, monsieur Bertrand, merci.
Merci beaucoup.
On va faire une pause musicale avant de passer à la suite de notre programme.
On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous griffe, ouvre ses plaies. L'amour nous soigne, l'amour nous fait. On aime comme on a été aimé. C'est cela qui nous fait courir. Reproduire et faire grandir ce qui nous a été donné sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. Un autre chien, un autre chat, on on aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes de tendresse dérobées à l'emporte-pièce, toutes les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse. Comme on a été aimé. C'est dans les mains de nos parents, c'est dans le cœur de nos amants, c'est dans les yeux de nos enfants. C'est le plus clair de notre temps, le plus obscur de nos.
FM Le Mag.
Et nous voilà repartis dans cette deuxième partie du Mag pour parler de social avec Françoise Amarger-Brajon, donc adjointe à la mairie de Mende en charge du social. On vous rappelle que c'est le dernier Mag de l'été, nos 138e, 139e et 140e invités pour clôturer cette saison. Rebonjour. Alors Françoise, on vous a un peu coupé au départ, on repart avec vous, Yaël.
Oui, donc on parlait tout à l'heure du Centre intercommunal d'action sociale. On va peut-être reprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il gère.
Voilà, donc j'expliquais que le Centre intercommunal d'action sociale, c'est un établissement public qui a pour président le président de la communauté des communes, puisqu'il s'adresse à tous les habitants de la communauté des communes, Mende, Pelouse, Le Bord et Badarou. Et donc, il y a un conseil composé de 8 élus et 8 représentants, enfin, ce sont des personnes qualifiées dans le social.
D'accord.
Donc, il y a une politique d'action sociale qui est menée sur toute cette communauté de communes et sur 3 pôles, c'est-à-dire qu'il y a le pôle personnes âgées, le pôle enfance et le pôle action sociale générale.
Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont mises en place sur ces pôles-là?
Ah ben oui, les actions mises en place, déjà ben, sur le pôle enfance, bien sûr que ça n'a pas dû vous échapper que début 2012, on a ouvert 2 nouvelles crèches, c'est-à-dire une crèche sur Badarou qui accueille 10 enfants et puis une crèche sur Mende qui peut accueillir 45 enfants. Donc là encore, ça a été l'occasion de travaux, de faire travailler les entreprises mendoises et surtout de donner satisfaction aux familles qui ont des difficultés à faire garder leurs enfants.
Et qui étaient dans cette attente.
Voilà, qui étaient dans cette attente. Donc, ces crèches où il y a, bien sûr, c'est le travail auprès des enfants, encadré avec des éducateurs jeunes enfants, qui impulsent aussi certaines actions, une certaine dynamique auprès des agents sociaux. Il y a ensuite la création de la maison solidaire. La maison solidaire.
Alors, qu'est-ce que c'est cette maison solidaire?
C'est un centre social qui est agréé par la Caisse commune de sécurité sociale, qui a été financée d'ailleurs en grande partie par la Caisse commune branche famille, ce qu'on appelait CAF avant, et qui fait partie également de la fédération régionale, c'est-à-dire qu'il a fallu également faire reconnaître cet agrément et les possibilités de travail qu'on avait dans cette maison solidaire.
La maison solidaire qui se situe à côté de l'espace Jean Jaurès.
Voilà, c'est dans l'espace Jean Jaurès, exactement. En dessus du parking des casernes, c'est vrai que quelquefois les personnes ont du mal à trouver. Une fois qu'ils sont venus, ils y reviennent, et fréquemment, mais il faut le...
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette maison solidaire? Il y a des associations, il y a des activités. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Oui, bien sûr. Alors, donc, la maison solidaire, au départ, c'est un centre social. Un centre social, c'est... On regroupe plusieurs associations, mais ce n'est pas une maison des associations. Ce sont des associations qui veulent travailler ensemble, donc auprès de la population, que ce soit des enfants, de leurs parents, il peut y avoir les grands-parents, les adultes, toute population. Donc il y a 5 associations, l'association familiale Mende et Environ qui propose couture, broderie, atelier jeux. Ensuite, il y a le réseau d'assistantes maternelles qui reçoit des parents qui sont justement en recherche de garde d'enfants, qui ont des questions à poser sur les possibilités, et puis qui peut recevoir les assistantes maternelles avec les enfants qu'elles gardent, et là aussi créer une certaine dynamique. Il y a Naître et Grandir, que vous connaissez tous, qui a beaucoup d'actions, qui organise énormément de conférences sur l'aide à la parentalité, sur l'aide à l'allaitement. Enfin, il y a plusieurs sujets, toujours au sujet des enfants. Bien sûr, il y a Maximum, le centre d'accueil, l'accueil de loisirs, qui est accueilli, qui nos locaux sont pas assez grands. On devrait pousser les murs parce qu'ils doivent refuser des adhésions parce qu'il y a énormément de monde. Et il y a la maison de l'enfant également qui fait du soutien scolaire et diverses activités. Et ces associations entre elles, bon, chacune fait son activité comme elle l'entend. Puis après, il y a des actions communes et qui sont menées là avec le centre social. Donc l'an dernier, il y a eu un forum sur la prévention des accidents domestiques. Cette année, il y a eu également des colloques sur le respect de la différence, alors que ce soit la différence religieuse, ethnique, couleur de peau, culture.
Au sens large du terme.
Voilà. Et puis, c'est une mutualisation de moyens, de salles déjà. Il y a un partage de salles, donc il a fallu organiser les tranches horaires, etc., se partager. Et c'est toute une, oui, c'est une dynamique. Et moi, je suis ravie parce que, bon, cette maison qui est dirigée par Véronique Poyton, qui est à mi-temps aussi directrice de l'Antirouille, a pris, si on peut dire, la mayonnaise a pris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités, des activités en vue. Mettons, pour cet été, nous avons également une référente famille qui organise plusieurs activités. Alors, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des ateliers. Ça peut être des ateliers bricolage, jardinage, cuisine. Donc là, ça réunit tous les habitants de la communauté de communes qui veulent venir. Il y a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Il y a des jeunes mamans.
Très convivial.
Voilà, très convivial. Il y a un échange de savoir. Une personne d'un certain âge peut aider une autre à faire une ratatouille. Enfin, bon, c'est vraiment pour éviter la solitude aussi. Hein. Donc, il faut savoir que les portes sont ouvertes à tout le monde. On peut y aller.
Oui, demander c'est ce que j'allais vous demander. Comment on peut y aller? Est-ce qu'on trouve un programme? À qui on s'adresse, du coup?
Voilà, donc les programmes sont en général sur le petit bulletin municipal hein, qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres. Il y a toutes les activités qui s'y font. Ensuite, évidemment, en allant sur place, on voit, il y a tous les flyers qui présentent les activités. Et il y a des activités pour vraiment organisées simplement par la Maison Solidaire, sans spécialement les autres associations, mais qui donnent toujours un coup de main parce qu'il y a un volontariat toujours présent. Mettons le 18 juillet, jeudi 18 juillet, il y a une sortie à Montpellier. C'est la visite du zoo de Montpellier. Et puis l'après-midi se finira à la plage avec un pique-nique pris sur la plage. Et ça, voilà, on s'inscrit, on prend le bus, il n'y a aucun souci, on vous amène au zoo, on vous amène à la plage. Il y a des enfants qui ne partent jamais à la plage ou qui sont partis, mais voilà, les grands-parents qui sont de garde ne savent pas trop que faire avec leurs petits, donc ils les amènent là. Après, il y aura des soirées.
C'est-à-dire des soirées jeux aussi.
Voilà, sur les jeux, et une soirée aussi, un atelier pour créer les fameux bracelets qui sont très à la mode maintenant chez les jeunes, voilà. Shambhala, autant pour les filles que les hommes, que les enfants. Une veillée jeu qui s'appellera les loups-garous. C'est un jeu de cartes familiales, d'ambiance.
C'est un jeu de rôle.
Voilà.
C'est donc, tu as ton BAFA peut-être.
Non, c'est très drôle, j'adore ce jeu.
Voilà, mais donc il faudra venir avec les copains et c'est
les enfants.
Les portes sont ouvertes vraiment à tout le monde. On accueille également les habitants et on attend la venue des habitants pour nous donner des idées aussi et nous dire ce dont il y a besoin. Parce que, voilà, nous, on peut avoir certains ressentis, dire là, il faudrait faire ci, là, il faudrait faire ça. Mais en fait, l'attente, en fait, nous, on attend que ce soit les habitants qui nous disent mais pourquoi on ne pourrait pas faire un atelier là-dessus, ou pourquoi pas une sortie ou une visite de tel ou tel endroit. Les inscriptions sont vraiment très modiques. Je n'ai pas un souvenir.
Trois, quelques euros. Enfin, c'est,
voilà,
c'est
les sorties, vraiment, mettons, sur mon pays, oui, ça va être 2 euros.
Oui, voilà,
Mais
c'est vrai qu'il y a eu plein de choses dans l'année qui ont été faites. Il y a eu des promenades pour découvrir la nature aussi avec un guide de nature. Il y a eu des sorties au Mont-Lozère. Voilà, il y a eu plein de choses pour toutes les personnes justement qui veulent participer, qui veulent s'intégrer aussi. On parlait tout à l'heure de l'accueil des populations. C'est vrai que ça peut être un moyen aussi de rencontrer des personnes de façon très sympathique.
Là, on a reçu dernièrement le Conseil des Sages, que vous connaissez tous, qui a voulu connaître la Maison Solidaire et ses actions, et qui serait intéressé pour donner un coup de main, c'est-à-dire pourquoi pas, enfin on a un projet, il faut que ça se travaille, mais pour l'aide à remplir les dossiers administratifs, pour certaines personnes qui ont des difficultés à remplir leurs dossiers, il peut y avoir tout ça.
Enfin, c'était très très intéressant, mais on va peut-être avancer un petit peu par rapport... à d'autres... Ah oui, mais c'est très, très bien. C'est très, très bien.
Il nous reste 3 minutes.
3 minutes, voilà, on a un peu limité. Peut-être nous parler un petit peu de la résidence Piancourt.
Oui, alors ça, c'est bien sûr le pôle personnage et la résidence Piancourt qui existe depuis 89. Depuis quelques temps, donc, nous avons une nouvelle directrice, Isabelle Rio. Et également, en renfort, une jeune femme qui travaillait auparavant en crèche et puis qui, suite à un accident de santé, est reclassée à la résidence Piancourt et donne entière satisfaction puisque c'est un soutien d'animation. Et la résidence Piancourt, ce sont 61 logements et 12 dans l'annexe, mais qui a les mêmes avantages qu'au sein du bâtiment résidence Piancourt. C'est une résidence sécurisée, hein, c'est-à-dire qu'il y a une téléalarme au cas où quelqu'un ait un problème de santé, il y a toujours quelqu'un d'astreinte qui viendra lui porter secours, problème de santé ou autre, une ampoule qui grille. Enfin. Mais ce n'est pas une EHPAD, hein, c'est pour personnes autonomes, ce n'est pas du tout une maison de retraite, il faut que les gens viennent ici en parfaite autonomie.
On ne peut pas y mettre Jean-François.
Je ne sais pas. Il y a des moments où je me demande.
J'y vais souvent.
Mais par contre, voilà, Jean-François y est souvent, puisque, outre toutes les animations qui sont proposées par le club de l'âge d'or et par la résidence elle-même, mais c'est vrai que le budget animation est quand même assez modeste. Heureusement qu'on a le service culturel de la ville de Mende qui nous amène. Oui, si, Jean-François.
Quelle belle transition. Quelle belle transition.
Je suis ravi. C'est rare. Les remerciements sont rares. Là, j'accepte.
Si tu veux, ils sont enregistrés pour aller repasser.
Je veux bien rebondir sur une phrase que vient de dire Françoise, qui est « lutter contre la solitude ». C'est une phrase qui m'a plu parce qu'en fait, on parlait programme avec monsieur le sénateur et dans notre programme, ceux qui ont pris la peine de lire le programme culturel, parce qu'en général, on ne le lit pas, le programme culturel. La culture, c'est les festivités, les festivals, mais on oublie quand même qu'on fait un travail de fond, très souvent. Et je pense que... Merci de me donner la parole, parce que là, ça me permet peut-être une minute de parler de ce travail de fond qui se fait depuis 3-4 ans sur les EHPAD, résidences Piancourt, avec des résidences d'artistes. Parce que nous disions clairement sur notre programme qu'il ne fallait oublier aucun public. Et je pense qu'effectivement, ces publics âgés, les EHPAD ou la résidence Piancourt, sont souvent des publics qu'on a oubliés ou qu'on oublie parfois. Et donc nous, depuis 4 ans, nous faisons des résidences d'artistes. Alors ça a commencé avec une résidence du théâtre Samouraï sur le thème de la fête. Ensuite, nous avons eu Torel avec le Trans-Lozérien. Et puis, cette année, nous avons une résidence art plastique avec Sylvette Ardoineau, que vous avez pu voir pendant la Mostra. Voilà. Donc, en fait, un vrai travail de fond, et je crois qu'il satisfait pleinement ce public. Oui. C'est rendre acteur ce public aussi. Ce n'est pas amener des spectacles dans les maisons.
Comme tu dis, les gens ne s'arrêtent pas forcément sur le programme culturel social, alors que c'est extrêmement important.
C'est le travail de fond. Et du service culturel. Voilà, parce que la vitrine, c'est effectivement la programmation, et on pourra en parler si vous voulez.
Et on va
mais
en parler.
Il y a quand même un vrai travail de fond qui est mené au niveau des associations, au niveau de l'implication de tous les acteurs. On essaie, et je pense qu'on y arrive, de ne pas oublier aucun des publics, de la petite enfance, de la crèche jusqu'aux personnes âgées.
Alors on va en parler après une pause musicale, d'un live d'un artiste, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Frank Zappa.
Ah oui, et qui c'est
nous,
un ami.
Et voilà, et qui nous interprète Bobby Brown, Ghost Down.
Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my babe. We'll let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie.
Yeah.
She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
I knew you'd be surprised.
48 FM Le Mag.
Et voilà, avec cette chanson de Frank Zappa, un qui t'est cher, je l'ai passé parce que je sais que tu aimes bien cet artiste.
C'est gentil, oui, Frank Zappa, c'est pour moi, comme Monsieur Fresh était pour Alain Bertrand, c'est pour moi un grand inspirateur culturel.
Chacun ses inspirateurs, hein, comme tu dis. Et la fête de la musique, justement, alors, Kalima, c'était bien ?
Kalima, c'était très bien. Enfin, je pense que le public a beaucoup apprécié, mais bon, c'était un choix un peu... c'était un groupe que je connaissais bien, que je voulais faire venir depuis 2 ans, et c'était jamais possible parce que les Espagnols...
Et oui, c'est pas facile.
C'est pas facile, ouais. Et donc cette année, oui, je pense que c'était très bien.
Non, il y a eu du monde, beaucoup ça a bougé, monde, ouais. On les a eus sur un plateau radio, ils étaient fort sympathiques.
Voilà, je n'aime pas que Zappa quand même.
Eh ben non, j'espère
j'aime
bien.
J'aime Kalima, fait tout ce qui finit en A, quoi, en général.
D'accord.
Paella... Donc... Sangria. Chocolat.
Je cherche une festivité en A, j'en ai plus. C'est l'été.
C'est l'été.
Ça va être les.
Oui. Officiellement.
Officiellement, parce qu'on ne le voit pas trop côté température, mais on va le voir avec le 48e de rue qui va de nouveau nous réchauffer cet été.
J'espère que ça va nous réchauffer. Bon, j'espère que le temps sera de la partie, parce que voilà, c'est toujours la grande inquiétude à Lozère. Les festivités dehors, enfin les festivals dehors, c'est toujours une grande inquiétude. Mais bon, oui, 48e approche. Là, le 48e, c'est plus un gros travail de l'association La Boarte.
Bien sûr, mais auquel la mairie est associée.
Voilà, auquel la mairie est associée, où je suis associé de cœur et de bras et de jambes depuis quand même pas mal d'années. Non, nous, au niveau de la ville, sur 48e de rue, depuis le début, pour nous, 48e de rue, c'est à la fois la fin de notre saison culturelle, on va dire, et le passage de flambeaux aux associations et aux festivités d'été. Et donc cette année, pour fêter, pour inviter, on va dire, j'aime pas le mot client, mais nos fidèles, on va dire, de la saison culturelle.
Les fidèles, oui.
Nos fidèles. Cette année, on propose dans le cadre de 48e un spectacle qui s'appelle Un caillou dans la chaussure d'une compagnie qui est déjà venue à Lozère, qui était Bibendum Tremens. Un très très beau spectacle de cirque, voilà, un truc un peu barré, un peu, c'est à la fois très très amusant, très émouvant aussi, voilà, c'est une bonne façon de clôturer notre saison et aussi de laisser la place à 48e de rue et c'est 82 représentations cette année, voilà.
Et oui, c'est la fin de la saison culturelle.
C'est la fin de la saison, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette saison culturelle 2012-2013 ? Elle a été suivie ?
Elle a été très, très suivie. Voilà, bon, il y avait des spectacles phares, bien sûr, de toutes ces culturelles qui ont rencontré leur public. Voilà, je pense à Pouic Pouic, je pense à
Didier Porte.
Didier Porte, Éric Antoine, voilà, les gros spectacles de la saison culturelle. Et puis plein d'autres petites formes.
À l'espace des anges, ça a été souvent complet.
C'était très souvent complet. Voilà. Mm. C'était très souvent complet.
Ça, c'est en plus des petites formes comparées aux autres spectacles.
Voilà, c'est des petites formes, mais je ne vais pas vous dévoiler la saison future. Mais...
Ah, mais on est là pour ça, nous. Ouais, on est en demande avec Françoise.
C'est secret.
Ah, quelques pistes, quand même.
Quelques pistes. Bon, déjà, quelques pistes.
Il lâche vite l'affaire, hein.
Non, c'est bien ça.
Il paraît qu'il se fait dépouiller par sa famille chez lui. Papa, tu me prêtes 10 euros ? Non. Bon, 5, ok.
C'est vrai, souvent, je prête des euros. Je ne devrais pas les prêter.
Et oui.
Je sais. Je me soigne. Une piste, déjà, c'est qu'on parlait de l'espace événement. Donc, pour nous, l'espace événement, l'année prochaine, nous pose quelques petits soucis, on va dire, techniques. Donc, automatiquement... Quand nous avons pensé saison culturelle, on s'est dit qu'il faudrait peut-être envisager de faire une saison, alors, entre guillemets, un peu hors les murs, puisqu'on ne va pas pouvoir utiliser le théâtre. Le théâtre en lui-même, on pourrait l'utiliser. C'est l'accès technique qui va être compliqué. Donc, et puis, bon, les travaux, c'est jamais...
L'environnement sera un peu perturbé.
Donc, on a pensé à une saison un petit peu hors les murs sur l'espace des anges. Donc, automatiquement, des petites formes. Voilà. Donc, c'est un pari. C'est-à-dire que... Ouais, c'est une...
C'est un pari qui est dû aussi aux travaux,
qui est dû à des raisons techniques, mais aussi qui peut aussi nous relancer sur intellectuellement sur qu'est-ce qu'on peut proposer, quelles petites formes nous pouvons proposer. Donc... Voilà, cette année, on aura quand même pas mal de petites formes très intéressantes. Je vois mon ami Trottoin qui sourit là, qui se moque.
Et oui, il a entendu le mot intellectuel, donc.
Intellectuel, bon, puisqu'il est là, je un partenariat renforcé avec les associations locales. Ça, c'est pas une nouveauté, mais disons que déjà sur le jeune public, bon, encore un partenariat très fort qui nous lie avec la Ligue de l'enseignement et tout le travail de médiation qui est fait autour, parce que ça aussi, on voit, il y a la vitrine et puis il y a le travail de fond qui est le travail de médiation auprès des publics scolaires. Donc, d'où ce partenariat avec la Ligue de l'enseignement, Folle Lozère 48, avec nos partenaires traditionnels, avec les scènes croisées de Lozère, et un partenariat avec les associations parce que cette année, voilà, on a réuni un peu toutes les associations. Tu parlais tout à l'heure de la fête de la musique. Donc, nous avons réuni toutes les associations qui s'occupaient un petit peu de musique, on va dire, sur la ville, avec Va comme je te pousse, une jeune association.
Qui connaît très bien cette table de multiplication.
Voilà, qui connaît pas bien cette table de multiplication, avec Roquefort, avec Volteface qui revient. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ah,
c'est une bonne nouvelle, oui.
Volteface qui revient, voilà. Et donc, cette année, un petit focus particulier sur des formes musicales et une bonne saison, une très bonne saison qui s'annonce musicale avec effectivement des petites formes, enfin, petites formes, mais quand même qui étaient...
Ça, c'est intéressant parce que les précédentes années, c'était un peu mis en retrait par rapport au spectacle théâtre.
C'est vrai qu'on n'a pas été peut-être très fort sur ça. Voilà,
donc cette année, ça va revenir alors.
Cette année, une petite saison musicale, 6-7 dates.
À l'Espace des Anges ?
Espace des Anges et théâtre, parce qu'il y a quand même des grosses formes.
Voilà, parce que chaque année, il y a un gros concert quasiment pour l'ouverture de la saison culturelle. Donc,
cette année, il y aura une ouverture en musique.
Ah, donc avec qui ?
Avec. Allez, je vous le dis. Allez. Avec un groupe qui a fait sensation à Bourges, qui est Sing Sing My Darling.
Donc, qui est en train d'exploser en ce moment.
Qui est en train d'exploser. Et en première partie, un collectif que nous verrons à 48e et qui a été accueilli en résidence par l'association Va comme je te pousse. Donc c'était un petit clin d'œil aussi à ce travail des associations. En première partie, le collectif chiné donc, qui jouera. Et puis Sing Sing My Darling, je n'ai pas un très bon accent, qui clôturera la soirée. À l'Espace des Anges. Bon, c'est des petites formes, mais bon, quand je dis petites formes, ça ne veut pas dire forcément pas connu, pas bien. Voilà.
Non, c'est pas péjoratif.
Non, en plus, ce ne sont que des groupes qui ont été repérés sur Bourges. Donc, voilà.
Et du coup, est-ce qu'il y aura autant de spectacles programmés que l'an dernier ou le fait d'avoir une salle de moins, entre guillemets, à cause des problèmes techniques, vous restreint au nombre de spectacles ?
Ça nous a restreint.
Oui.
On a perdu des grosses formes pour des grosses formes, on va dire, de théâtre, de boulevard, ce genre de choses, parce que ça tombait sur des périodes critiques. Ça nous a restreint, mais il y aura quand même beaucoup de choses.
Oui.
Beaucoup, beaucoup de choses.
Il faut se dire qu'après, on verra les spectacles à l'espace événement, peut-être.
Après, vous pourrez peut-être voir des spectacles à l'espace événement, puisqu'il y a un lieu qui est prévu pour des concerts debout.
Oui.
Mais ça nous permettra peut-être de rebondir. Mais on est déjà là sur la saison 2014-2015. Hein. C'est la saison 2013, elle est bouclée.
Et oui.
Voilà, on va partir. Vous savez, faire une saison, monter une saison, c'est un an avant. Donc là, on va partir sur Avignon, on va partir sur Chalon, on va partir sur Aurillac. Voilà, on est déjà sur une autre saison, 2014-2015.
Pour terminer, une question... Piège. Une question piège, non, pas vraiment. Non, à savoir l'importance de la culture. Alors, je parle à quelqu'un qui en est convaincu, mais c'est vrai qu'on fait souvent passer le sport, la culture, on en parlait
même
tout à l'heure avec
les
programmes. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps.
En dernier.
Oui, on les fait passer en dernier, mais parce qu'on garde le meilleur pour la fin.
C'est gentil.
Et oui, c'est vrai, désolé Françoise, on aime bien le milieu et le début aussi. Allez, on ne va pas faire de jaloux. Ouais, savoir l'importance de la culture qui est souvent reléguée avec le sport, voire des fois le social, en arrière-plan.
Je crois que Monsieur Bertrand, sénateur maire, et son équipe ont prouvé que la culture sur la ville, ça a été un élément fondateur, fédérateur, on va dire, et ça a eu une importance énorme sur notre politique. Bon, déjà, les budgets ont été augmentés. La première chose que nous ayons réalisée, c'est la création de l'espace des Anges, au bout d'un an et demi de mandat. Donc voilà, c'est quand même des marqueurs forts sur notre politique culturelle. Les budgets n'ont pas du tout été entamés, comme nous pouvons voir dans d'autres villes. Je pense que monsieur le sénateur maire et son équipe ont compris toute l'importance de la culture. Il parlait de son influence fraîchiste. Je crois que Fraîche, pendant très longtemps, a mené cette politique-là. Et grâce à lui, nous, par exemple, en Lozère, on bénéficie, 48e de rue, par exemple, on bénéficie de grands festivals régionaux. Donc ça me permet quand même de vous dire que pour 48e de rue, on accueille cette année encore le festival Montpellier Danse et que le 12 juillet, nous accueillons le festival Radio France
International.
Oui, le festival international Radio France Montpellier. Voilà, non, je pense que nous, nous sommes convaincus, et je crois que je crois que les Mandois le savent, nous sommes convaincus du besoin, surtout en ces périodes-là, du besoin de la culture. Je crois que la ville le montre tout le temps, avec son enthousiasme, sa fraîcheur dans les programmations, dans les propositions. Donc, vous étiez à la fête de la musique.
Ah, j'y ai participé.
Voilà,
il y avait du monde.
Moi, je n'y étais pas, figurez-vous. Je n'étais pas sur Mende, mais j'étais ailleurs. Et franchement...
C'était moins bien.
Oui, parce qu'en termes de propositions, oui, c'était beaucoup moins bien. Ouais. En termes de propositions, c'était beaucoup moins bien. On avait beaucoup de propositions dans les cafés, de DJ, ainsi de suite. Mais en termes de propositions artistiques, non, je n'ai pas vu des choses que nous avons proposées à Mende.
Eh bien, on va se quitter sur cette note-là. Merci Jean-François Berengel. Merci Françoise.
Merci à vous.
Voilà, donc c'était le dernier MAG de l'année qui sera rediffusé ce jeudi à 18h11. Tout l'été, c'est les meilleurs moments des MAG où on pourra vous retrouver vu que vous étiez déjà passé auparavant dans les MAG. Et on se retrouve en septembre pour une nouvelle série, une nouvelle année de MAG sur 48FM. Merci à vous, au revoir.
Allez.